RCF.
Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui autour de l'Ancien Testament avec une histoire assez violente, une histoire de femme, une histoire d'enfant, une histoire de désir, une histoire qui nous dit aussi comment Dieu nous accompagne. Et aujourd'hui dans cette émission, c'est le récit de la naissance d'Ismaël et c'est avec vous que nous allons le découvrir. André Wénin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes théologien, professeur émérite de l'Ancien Testament et de langue biblique à l'Université de Louvain en Belgique. Vous êtes l'auteur d'un livre, Abraham ou l'apprentissage du dépouillement. Et votre spécialité, ce sont les récits de l'Ancien Testament et en particulier la Genèse, le livre des Juges et le livre de Samuel. Et puis, vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle « Ce que dit la Bible sur la paternité » aux éditions Nouvelle Cité. On va voir que c'est important dans ce récit. Alors, avant de se lancer dans ce texte, où il y a beaucoup de questions aussi de patience, je voudrais savoir comment est-ce que vous comprenez pourquoi ce n'est pas si évident de se rendre compte que Dieu tient toujours ses promesses. Ici, c'est la promesse d'une descendance nombreuse qui va tarder et qui va provoquer des situations de violence, l'envie que tout se précipite. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à croire aux promesses de Dieu ?
Mais parce que la temporalité de Dieu et la temporalité des hommes n'est pas toujours accordée. La temporalité de Dieu, c'est une temporalité lente. Pourquoi ? Parce que la réalisation des promesses suppose aussi un mûrissement chez l'être humain. Les promesses ne peuvent, si elles s'accomplissent immédiatement, c'est comme si on était dans l'ordre de la magie ou du miracle, alors que les promesses de Dieu passent toujours à travers un mûrissement de l'être humain qui va s'accorder au désir de Dieu de telle sorte que les promesses puissent se réaliser. Les promesses que Dieu fait sont toujours des promesses qui entrent dans le cadre d'une relation et qui ne fait jamais l'impasse sur les lenteurs humaines. La lenteur de Dieu, c'est d'une certaine façon sa façon de prendre le rythme de l'être humain qui parfois est un rythme assez lent dans ses évolutions.
Il faut l'accepter. Alors justement, aujourd'hui, il va être question de Sarah. Sarah, elle est demeurée stérile pendant longtemps. C'est la femme d'Abraham. Et au bout d'un moment, elle va encourager l'union de son mari avec la servante. On va y revenir. Alors le texte, c'est le chapitre 16. Il se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, qu'on réduit trop souvent à la création et à Adam et Ève. Mais il y a aussi cette histoire d'Abraham et de Sarah. Qu'est-ce qui va le précéder, ce texte ? Comment est-ce que se situe l'histoire sur laquelle on va s'arrêter aujourd'hui ?
Alors l'histoire se situe sur l'arrière-plan de l'aventure d'Abraham qui commence avec sa naissance qu'on raconte à la fin du chapitre 11. Abraham fait partie d'une famille qu'on dirait globalement mortifère et à partir du moment où Dieu va l'appeler, il va lui demander de quitter cette famille mortifère. Va-t'en de la maison de ton père pour pouvoir vivre précisément. Et Abraham s'en va dans la foi que s'il s'en va, effectivement, Dieu va pouvoir le faire devenir une grande nation, autrement dit, lui permettre d'avoir un avenir, alors que jusque-là, il est sans enfant, vu qu'il a épousé une femme qui est stérile, c'est Sarai. Et donc, Abraham s'en va, et son trajet va être balisé par des moments particuliers, des moments notamment de rencontre avec Dieu, où Dieu va confirmer le fait qu'il aura une descendance, qu'il aura une descendance très nombreuse, comme la poussière de la terre, qu'il aura une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, c'est chapitre 13, chapitre 15. Bref, un Abraham, d'une certaine façon, à qui Dieu répète ses promesses, au moment où Abraham, précisément, fait des pas en avant dans son existence. Par exemple, au chapitre 13, Abraham a laissé Lot s'en aller, Lot son neveu, sur qui il pouvait compter éventuellement pour être un de substitution, il est parti, il l'a laissé partir, et le fait d'avoir laissé aller son neveu, sans plus contrôler sa vie, fait en sorte que Dieu vient confirmer ses promesses. Au chapitre 15, Abraham a libéré Lot qui avait été pris par des rois, il a fait preuve de courage, de volonté, d'abnégation pour aller libérer non seulement son neveu, mais toute la population de la ville de Sodome. Eh bien, Dieu va revenir lui disant « ta récompense sera grande ». Quelle récompense ? Eh bien, et donc à chaque fois qu'Abraham fait des avancées d'une certaine façon dans son existence, Dieu vient lui dire que les promesses se rapprochent. Sauf que, vous l'avez dit au début du chapitre 16, eh bien Sarah, lui, elle, on va dire un peu plus loin, qu'il y a 10 ans qu'ils sont partis d'une certaine façon, 10 ans qu'ils sont en Canaan, eh bien Sarah est toujours stérile et elle s'impatiente et elle va prendre une initiative sur laquelle on va revenir.
Alors avant qu'on poursuive, puisque vous êtes bibliste, ce nom d'Abraham va changer. Là, dans le texte qu'on lit, on ne lit pas Abraham, on lit Abram.
Abraham, exactement.
Qu'est-ce qui fait que le prénom va changer par la suite ?
Mais le nom va changer au chapitre suivant, au chapitre 17. Il va être lié à l'alliance avec Dieu. Donc, quand Dieu va formaliser avec Abraham une alliance bilatérale, donc où lui-même va s'engager. Pour autant qu'Abraham réponde à cette invitation par la circoncision, mais on irait beaucoup trop loin s'il fallait. Donc à partir de ce moment-là, son nom va changer, va devenir, au lieu d'être Abraham, ce qui signifie le père est élevé, autrement dit, qui tourne Abraham vers son passé, le passé de son père, dont Abraham devrait faire la fierté, l'élever, le grandir, eh bien il va devenir lui-même le père d'une multitude de nations, c'est son nouveau nom qui le dit. Autrement dit, c'est l'alliance va faire en sorte qu'Abraham va faire un demi-tour carrément, au lieu d'être lié à son passé, à son père qui lui a donné ce nom pour se grandir lui-même, il va devenir lui-même père et donc va être axé vers son futur. Le nom de Sarah va changer également, ou plus exactement non. Le véritable nom de Sarah va être révélé à Abraham. Elle n'est pas méprince, elle est princesse. Voilà, en gros.
En tout cas, effectivement, c'est l'histoire de notre patriarche. J'allais dire, c'est d'abord l'histoire du père du peuple hébreu, mais qui sont nos ancêtres dans la Bible. Mm-hmm. Et c'est cette histoire qu'on va raconter aujourd'hui qui nous dit aussi la place de Dieu dans nos attentes à nous, dans nos désirs. Et on commence avec cette attente qui doit sembler éternelle, et ceux qui ont attendu un enfant le savent, c'est cette longue période durant laquelle l'enfant n'arrive pas, et Sarai va prendre l'initiative pour qu'elle puisse attendre un enfant. « Écoute-moi, dit-elle à Abraham, le Seigneur ne m'a pas permis d'avoir un enfant, va donc vers ma servante, grâce à elle, peut-être aurai-je un fils. »
Voilà, ça c'est la traduction. Simplifié.
Alors, je dois préciser que je travaille avec la traduction d'AELF. C'est important à dire parce que vous, je le décris, les auditeurs ne le voient pas, mais vous avez le texte sous les yeux qui est un texte en hébreu. C'est une chance incroyable de pouvoir lire le texte.
C'est un peu de travail aussi. Mais...
c'est beaucoup de travail. Mais voilà, donc nous aurons sûrement quelques petites différences au cours de cette émission. Que dit votre texte ?
Alors, mon texte dit ceci, c'est que le verset 1 décrit une situation double dont Sarah, femme d'Abraham, n'a pas enfanté pour lui. Ça va ? Ça, c'est une première chose, c'est un fait. Un autre fait, c'est que pour elle était une servante égyptienne dont le nom est Agar. En fait, c'est une servante égyptienne que vraisemblablement ils ont acquis lorsqu'ils sont descendus en Égypte et que Abraham a fait passer sa femme pour sa sœur, ce qui a amené des malheurs sur Pharaon, et il est parti avec tous les serviteurs, les servantes, tout le bétail qu'on lui avait donné. Ils se retrouvent donc ici avec cette servante qui est la servante d'Agar. Ce sont deux faits. Qu'est-ce que va faire de ces deux faits, qu'est-ce que va faire Sarai ? Eh bien, ça va lui donner une idée qu'elle exprime à Abraham en lui disant « Voici, je te prie, Adonai m'a empêché d'enfanter ». Elle fait une interprétation de ce qui est un fait. Elle n'a pas enfanté, pour elle, c'est Dieu qui l'empêche d'enfanter. Autrement dit, on est dans une interprétation théologique. Il m'a empêché d'enfanter, viens donc vers ma servante ou vers ma domestique, peut-être aurai-je un fils par elle. Autrement dit, elle reconnaît que le problème est du côté de Dieu, l'obstacle, il est là, et elle va donc proposer à Abraham de contourner l'obstacle pour avoir ce qu'elle veut.
Voilà. Donc, à la fois, elle reproche au Seigneur, le Seigneur m'a empêché d'enfanter,
oui, oui.
Mais en même temps, elle n'attend plus rien de Dieu, alors.
C'est-à-dire qu'elle estime qu'il faut lui forcer un peu la main, sans doute. Et donc, il faut lui proposer une solution humaine pour que le problème qu'il se refuse à régler lui-même se règle de lui-même, précisément.
Et alors, est-ce qu'on peut considérer qu'Abraham est passif dans cette histoire parce qu'il y va ? On n'a pas de résistance, véritablement.
Alors là, vous allez un petit peu vite.
Oui.
Parce qu'en réalité, peut-être aurais-je un fils par elle. Ça, c'est la traduction qu'on donne habituellement. Mm-hmm. Et pourtant, c'est une traduction qui n'est pas la traduction correcte du verbe hébreu. Le verbe hébreu dit « peut-être serais-je construite grâce à elle ou à cause d'elle ». Alors, construire, c'est quoi ? Eh bien, je ne sais pas si vous vous souvenez d'Adam et Ève, pour le coup, Dieu construisit la côte qu'il avait prise de l'humain en femme.
C'est le même verbe en hébreu. Vous retrouvez le même verbe.
C'est-à-dire que la construction d'une femme se fait en rapport avec un homme, comme dans la création de la femme et de l'homme, et non pas en ayant un enfant. Ce qui est ici, c'est non seulement le désir d'un enfant, mais la confusion entre devenir femme, être construite comme femme et avoir un enfant. Confusion entre la féminité et la maternité.
Donc, si on reprend, Sarah pense qu'elle sera véritablement femme au moment où elle sera mère.
Oui, exactement. Et puisqu'elle ne peut pas l'être elle-même, elle va passer par quelqu'un d'autre, par une mère porteuse. Oui, donc, ça veut dire qu'on est ici devant un mécanisme qui est extrêmement fréquent dans la Genèse. C'est un mécanisme que je décris comme la convoitise. Mmh. En fait, la convoitise, c'est quand on est devant un désir qu'on ne peut pas, enfin, qui se heurte à une limite, eh bien, on cherche à assouvir le désir malgré la limite. Mmh. Et cela, ça provoque des confusions. Pourquoi ? Eh bien, en fait, la convoitise, quand quelqu'un est pris de convoitise, qu'est-ce qu'il va faire de l'autre qui est en face de lui, de l'autre sujet ?
Un objet.
Eh bien, il va en faire l'objet de sa convoitise, je te veux pour moi. Il va en faire l'instrument par lequel je vais utiliser pour avoir ce que je veux, ou il va le considérer comme un obstacle qu'il faut contourner, un obstacle qu'il faut neutraliser. Regardez ici, l'obstacle, c'est Adonai qui n'a pas donné l'enfant. L'instrument, c'est Agar.
Alors celui que vous appelez Adonai, c'est le Seigneur,
c'est Seigneur,
Dieu.
C'est le Seigneur, c'est ça. Oui. Je prends simplement la lecture traditionnelle de la Bible. Agar, c'est le moyen, c'est l'instrument. Pourquoi ? Pour combler mon désir. Et c'est ça qui provoque une confusion chez Sarai. Elle est prise par la convoitise, par la volonté d'avoir tout de suite, même si c'est après 10 ans, donc on peut la comprendre. Mais peu importe qu'on puisse la comprendre, sa démarche est une démarche où on cherche à combler le vide en utilisant les autres comme moyen, en écartant ceux qui font obstacle.
On est bien
l'enfant
loin,
devenant alors l'objet qui sera comblant. Et donc, dans cette configuration, que l'autre soit objet, qu'il soit rival ou qu'il soit instrument, il n'est jamais sujet. Et donc, on n'est pas dans la relation, on est dans l'utilisation.
Et on n'est plus non plus dans la vie qui serait un don.
Exactement, vous avez parfaitement mis le doigt. C'est-à-dire que la convoitise, c'est vouloir prendre le don, ouais. Qui n'est plus un don à partir du moment où on le prend.
Alors, dans cette histoire, Abraham... va suivre ce que lui demande Sarah. Il n'y a pas véritablement de résistance, en tout cas ça ne semble pas apparaître dans le texte.
On peut continuer le récit. Donc Sarah prit la femme d'Abraham, prit Agar, l'égyptienne, sa domestique, au bout de 10 ans qu'Abraham demeurait en terre de Canaan, et il la donna à Abraham, son homme, à lui pour femme. En fait, ce qui se passe, c'est un mariage. Donc Sarah est en train de donner à Abraham une autre femme. Il est en train, elle organise un mariage pour être sûr d'une certaine manière que ce mariage sera consommé. Autrement dit, on n'est pas simplement dans « va vers ma domestique » et il a là un petit peu comme on irait vers une mère porteuse. Il s'agit véritablement de faire d'Agar la femme d'Abraham. Et alors là, vous avez des mots hein, qui sont très intéressants parce que les deux verbes qui sont là, c'est « prendre » et « donner ». Prendre et donner, et Abraham va vers Agar, etc. Hein, et donc, il va consommer le mariage. En fait, vous avez là 3 verbes, qui sont des verbes qui ont déjà été utilisés dans une même séquence quand une femme donne quelque chose à un homme qui consomme. C'est au chapitre 3 dans la Genèse. La femme prit de l'arbre, elle mangea, elle donna à son mari avec elle, et il mangea. Les verbes qui sont ici renvoient à l'erreur, qui est l'erreur d'Adam et Ève, lorsqu'ils veulent combler le manque en basculant la limite fixée par Dieu.
Mmh. Il prend.
Voilà, exactement. Et on ajoute d'ailleurs, « Et Abraham écouta », à la fin du verset 2, on dit « Et Abraham écouta la voix de Sarai ». Qu'est-ce que Dieu reproche à Adam lorsqu'il a mangé le fruit ? « Parce que tu as écouté la voix de ta femme ». Autrement dit, le texte ici est raconté de telle sorte que l'on assiste à une sorte de reproduction de la faute, précisément qui consiste à céder à la convoitise pour mettre la main sur le don, pour nier donc le don et le donateur.
Et contourner du coup Dieu.
Et contourner Dieu, exactement. Autrement dit, Abraham entre dans la logique de Sarai qui pense qu'il faut contourner Dieu parce que Dieu ne donne pas ce qu'il doit. Et donc, on est dans une faute caractérisée. Et Abraham, vous le disiez tout à l'heure, Abraham est complètement passif. Il est complètement passif. Et c'est bien là son problème. C'est qu'il devait résister. Exactement comme Adam aurait dû dire « Mais où est-ce que tu étais chercher ce fruit-là ? Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Hein » Autrement dit, il y a une non-résistance, une sorte d'entrée passive dans la volonté de l'autre qui fait qu'Abraham, et je reviens sur ce thème-là, qu'Abraham entretient chez Sarai la confusion entre féminité et maternité. Il lui laisse croire qu'elle sera femme si elle est mère, alors qu'elle serait femme si lui résistait, lui à elle, à ce désir d'immédiateté, lui qui a de toutes les raisons d'y résister, puisque Dieu lui a promis et repromis qu'il aurait un fils, et au chapitre 15 même qu'il aurait un fils de ses propres entrailles, autrement dit un fils biologique.
C'est toute la difficulté aussi d'attendre et de comprendre que Dieu tient véritablement ses promesses, même si ce ne sont pas celles que l'on imagine.
C'est-à-dire,
ou en tout cas, pas dans la temporalité qu'on imagine. Voilà.
Mais évidemment, tout à l'heure, je disais que la temporalité de Dieu n'est pas celle des hommes. Ici, vous avez véritablement... Ils sont pressés. C'est-à-dire, leur couple n'a pas suffisamment évolué. Ils n'ont pas chacun trouvé sa place l'un vis-à-vis de l'autre pour qu'un fils puisse avoir un espace réel où il va pouvoir être lui-même. C'est pour ça qu'ils n'ont pas encore d'enfants. Et c'est pour ça qu'ils ne l'auront d'ailleurs qu'à la suite d'une évolution qui sera décrite dans les chapitres 17 et 18.
Alors cette façon de contourner Dieu, ça va être de provoquer la rencontre entre Abraham et la servante Agar. Mmh. Et de cette rencontre,
eh bien,
naîtra un enfant.
Oui, mais Agar va être enceinte et c'est là que les choses vont se corser.
C'est là que les choses vont se corser parce que rien ne va plus pour Sarai qui, on aurait pu penser, serait jalouse d'Abraham. Pas du tout. Finalement, elle ne comprend pas pourquoi Agar ne lui prête plus aucune attention et on imagine du coup ne remplit plus sa tâche.
Là aussi, la traduction est piégeante parce que le texte est beaucoup plus nuancé que cela. Le texte, en fait, laisse penser que, certes, on pourrait dire ça comme ceci, hein. Agar, enceinte, est grosse. Et là, Sarai se sent légère à ses yeux. Donc en fait, si je traduis littéralement, hein, et donc elle fut enceinte et elle vit qu'elle était enceinte et sa maîtresse fut légère à ses yeux. Elle fut légère, elle se sent légère, elle sent qu'elle n'a plus le même poids parce que l'autre a du poids, elle est l'épouse d'Abraham, elle est enceinte de lui, alors qu'elle ne l'est pas. Et donc il s'agit peut-être moins ou peut-être pas seulement d'un regard de la femme enceinte qui toise la femme stérile, mais c'est peut-être aussi la femme stérile qui se sent dévalorisée, autrement dit, qui intègre en quelque sorte ce sentiment d'infériorité par rapport à l'autre qui, elle, est capable d'avoir des enfants. Et donc, c'est, d'une certaine façon, c'est le grain de sable qui vient se glisser dans la belle mécanique, et à partir du moment où elle se sent ainsi dévalorisée, peut-être avec une base objective, peut-être sans, eh bien, à ce moment-là, elle s'adresse à Abraham pour s'en prendre à lui en disant « Ma violence est sur toi ». Autrement dit, la violence dont je suis victime, elle est à cause de toi. Pourquoi ? Parce que j'ai fait entrer une femme dans ton intimité, et voilà que maintenant elle se prend pour plus que moi et elle me toise. Et là, c'est elle qui met la faute sur Agar, mais la faute ne l'est pas nécessairement. On ne sait pas ce que fait Agar exactement.
Oui, on ne sait pas exactement ce que fait Agar. Qu'on n'a pas de description du comportement d'Agar à l'égard.
En revanche, ce qu'on sait, c'est que Sarah, il incrimine clairement comme étant celle qui a profité de l'intimité qu'Abraham lui a offerte pour toiser sa maîtresse. Et donc, elle s'en prend à Abraham. Et donc, on pourrait, comment c'est son expression, « ma violence est sur toi », peut avoir deux sens. C'est « ma violence est à cause de toi », c'est-à-dire c'est ton attitude qui fait que je me sens violenté, mais ça peut être aussi la violence que je ressens, c'est contre toi que je la dirige, parce que c'est toi qui es le responsable de la situation. Premier conflit, première querelle de ménage entre Abraham et Sarai. Et c'est Sarai qui la provoque, c'est-à-dire elle ne se laisse pas faire. Et d'une certaine façon, elle a raison. Si Abraham la laisse dans la confusion entre féminité et maternité, il lui fait violence.
Et Sarai va le placer devant ses responsabilités.
Exactement. Elle va lui dire, mais maintenant, fais quelque chose. Hein, ou plus exactement, elle lui dit que Dieu juge entre moi et toi. Ouais. Autrement dit, qu'il fasse l'arbitre. Remarquez, quand Dieu s'oppose à elle, elle le contourne. Quand il peut lui servir, elle le rappelle.
Donc Dieu est de retour dans la conversation.
Elle instrumentalise Dieu exactement comme elle en a fait son obstacle à contourner. Maintenant, elle l'instrumentalise aux fins de qu'on lui rende justice.
Mais c'est souvent ça, non, dans la vie d'un croyant.
Mais la Bible ne raconte rien d'autre, hein. Elle ne raconte rien d'autre. Et elle raconte peut-être la patience de Dieu avec les croyants un peu difficiles que nous sommes.
L'histoire ne tourne pas très bien puisque Agar doit fuir. Sarai humilia Agar, oui, c'est quand même très fort.
Pourquoi est-ce qu'elle doit... Oui, mais qu'est-ce qui provoque l'humiliation? Et Abraham dit à Sarai, ah oui, voici ta servante en ta main, fais pour toi ce qui est bon à ses yeux. Remarquez qu'il ne parle pas du tout de lui. Hein. C'est une histoire entre femmes, réglez ça entre vous, mesdames. Abraham, de nouveau, reste passif. Au lieu de défendre celle qui est sa femme et qui porte son enfant, face à l'autre femme qui, forcément, est furieuse de la situation qui s'est créée, pour quel que soit le motif, et quelle que soit la compréhension qu'on puisse avoir pour Sarai à ce moment-là. Abraham, d'une certaine manière, courageusement, dit « Courage, fouillons, laissons les femmes se débrouiller entre elles. Fais-lui ce qui est bien à tes yeux, et ce qui est bien aux yeux de Sarai, c'est d'humilier la servante. » L'humilier, même l'opprimer, c'est un verbe qui sera utilisé dans l'Exode pour dire que les Égyptiens humilient et oppriment les Hébreux.
Ah oui, donc c'est un verbe qui est très très fort.
Absolument. Oui. Si bien que Agar n'a plus qu'une solution pour échapper à cette malédiction d'une maîtresse qui la persécute, eh bien, la seule solution qu'elle a, c'est précisément de prendre la poudre d'escampette et de s'en aller.
Elle prend la poudre d'escampette, comme vous disiez, oui, elle s'en va au désert, et là, un ange lui apparaît.
Voilà, un messager de Dieu.
Un messager de Dieu, oui. Qui lui demande d'où elle vient et où elle va. Alors, voilà, c'est quand même les questions majeures de l'homme, les questions existentielles, d'où vient-on, exactement, et où va-t-on.
Voilà. Donc en fait, elle s'enfuit au désert, et c'est ici que Dieu intervient. Hein, Sarai a arbitré entre Abraham et elle, mais qu'est-ce qui se trouve entre Abraham et elle? Qu'est-ce qui se trouve entre le marteau et l'enclume? C'est Agar. Et donc, Dieu va intervenir en faveur d'Agar, en faveur de la vieille victime de ce couple mal ajusté qui est en train de se disputer autour de ces questions-là. Dieu rejoint à travers un messager Agar et lui demande « D'où viens-tu? Où vas-tu ?» Autrement dit, c'est « Quel est le sens de ta démarche ?» Et quand elle ne répond qu'à la première question. « De chez Sarai, ma maîtresse, moi je m'enfuis. » Elle ne répond pas à l'autre. D'une certaine façon, elle ne sait pas. La seule chose qu'elle fait, c'est fuir une situation qui est devenue insupportable pour elle. Elle fuit en quelque sorte, comme le peuple hébreu fuira le pharaon. Elle fuit une situation où elle est opprimée. Et elle s'affirme « Moi, je m'enfuis ». C'est-à-dire « Je suis sujet de ma fuite. Je ne me laisse pas écraser comme un objet par quelqu'un qui ne veut plus de moi. »
Pour autant, elle ne sait pas où elle va et c'est ce que lui dira l'ange. C'est lui qui va lui donner la direction. « Retourne chez ta maîtresse. »
Voilà.
« Humilie-toi sous ta main », ça c'est ce oui, que oui. J'ai. C'est aussi le verbe « humilier ».
Oui, tout à fait.
Ouais. Alors, est-ce qu'on peut comprendre que finalement, chacun doit être à sa place et c'est là que Dieu sera aussi?
En fait, ici, il s'agit, dans la démarche de Dieu, il s'agit du fils d'Abraham. Il s'agit du fils d'Abraham qui a reçu des
promesses
d'un fils
biologique. Avant que ce soit Agar, c'est le fils d'Abraham.
Oui, tout à fait. Et donc ici, il y a quelque chose qui à la fois est très bon pour Agar. Une femme enceinte, seule dans le désert, qu'est-ce qu'elle va faire? Et donc, d'une certaine façon, il la renvoie et en lui disant « Humilie-toi sous sa main », ça veut dire « Entre dans le jeu de ta maîtresse ». Et quand quelqu'un vous opprime, si vous entrez dans son jeu, il finit par s'épuiser parce qu'il voit que ça ne marche plus. Et donc ici, il y a une forme de « Reste sujet dans ta façon d'affronter l'humiliation qui t'est faite ». Et évidemment, l'autre ne répond pas.
C'est vrai qu'on n'a plus du tout de parole d'Agar dans cette partie-là.
Et donc, on continue. Et alors, vous allez voir comment, d'une certaine façon, il va y avoir trois discours. Oui, d'accord, je veux bien pour Homer, quand même. Pas comme ça. Deuxième phrase. « Voici que tu es enceinte, tu enfanteras un fils et tu appelleras son nom Ismaël, car Dieu, Adonai, a écouté ton humiliation. » Avec un jeu de mots, Ishmael et Shamar, le verbe « écouter ». Voici, il sera un onagre humain, c'est-à-dire un âne, mais sauvage, c'est-à-dire quelqu'un qui va représenter la rébellion de sa mère. Hein, il ne sera pas domesticable comme sa mère, la main sa main en tous et la main de tous en lui, contre la face de ses frères, il campera, ou dans la proximité de ses frères, il campera. Autrement dit, c'est quelqu'un qui gardera son indépendance. S'il faut se battre, il se battra. S'il faut être en bon terme, il sera en bon terme. Oui, mais ça, c'est à long terme.
Oui, parce moi, je veux Ismaël, savoir. Pour l'instant, n'est toujours pas né.
Voilà.
Hein. Alors, justement, à court terme, est-ce que Agar va obéir à Dieu?
Oui. Eh bien, effectivement, donc elle ne commence pas par obéir à Dieu, elle commence par nommer Dieu. Alors ici, vous avez une figure tout à fait exceptionnelle. Agar est la seule femme dans l'Ancien Testament qui soit gratifiée d'une apparition de Dieu, d'une théophanie à travers l'ange. C'est aussi la seule femme qui va nommer Dieu, qui va donner un nouveau nom à Dieu. Autrement dit, qui va découvrir d'une certaine façon une nouvelle facette du Dieu de vie qui précisément lui annonce la vie, puisque dans un premier temps, on en a parlé au verset 10, qu'elle va avoir une grande descendance. Autrement dit, elle reçoit une promesse comme la promesse d'Abraham.
Oui, c'est la même.
Et la même promesse. Et elle va, et cette promesse commencera par un fils qui est celui qui va naître, qui est Ismaël.
Alors, ce nom qu'elle lui donne, on peut revenir dessus, oui, tu es Elroy.
Eh bien, voilà, donc elle va lui dire, hein, tu es, elle donna le nom d'Adonai qui lui parlait. Donc, dans le messager, elle voit Adonai. Autrement dit, elle perce le mur des apparences, c'est plus un personnage qui lui parle, c'est Dieu lui-même, c'est Adonai lui-même qui lui parle en disant, toi, tu es le Dieu de... Alors, vous avez c'est un jeu de mots, c'est le Dieu de ma vision, mais ça peut vouloir dire le Dieu qui me vaut, le Dieu que je vois. Hein? Et alors, elle commente ce nom en disant « Est-ce vraiment ici que je l'ai vu après qu'il m'a vu ?» Il y a une forme d'échange de regard, mm-hmm. Il y a une forme de rencontre véritable qu'elle reconnaît et sur laquelle elle met le nom de Dieu. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, hein, on appela le nom de ce puits, le puits du vivant qui me voit. Et voici, il est entre eux, voilà, peu importe la situation de ce lieu-là. Autrement dit, le nom va être nommé pour faire mémoire de la rencontre face à face de Agar avec Dieu. Vous savez que rencontrer Dieu face à face, ce n'est pas quelque chose de courant. Hein. On y a même dans l'Exode, Dieu, comment qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Ici, non seulement elle ne va pas mourir, mais elle va avoir un fils.
Et pas n'importe quel fils, parce que Ismaël va rester aussi dans l'histoire.
Absolument, tout à fait. Et d'ailleurs, ce sera un fils qui, au chapitre 17, va être gratifié de maximum de bénédictions qu'un homme puisse recevoir.
Donc ce fils qu'on aurait pu croire illégitime, puisqu'il est donné à Abraham, mais sans Sarai, sans le couple de départ, au contraire, va prendre tout à fait sa place,
absolument.
Y compris dans la Bible.
Au chapitre suivant, on va montrer comment chacun des deux fils, puisque Isaac va être annoncé, sa naissance va être annoncée au chapitre 17, au chapitre 17, Dieu va bien préciser les choses. Sa bénédiction sera pleinement donnée à Ismaël. La caractéristique d'Isaac, c'est précisément d'être celui qui, parce qu'il est fils de l'Alliance, le résultat de l'Alliance entre Dieu et Abraham, parce qu'il est fils de l'Alliance, c'est lui, à travers lui, que l'Alliance entre Dieu et les patriarches continuera. Mmh. Mais chacun a sa place. Il ne s'agit pas de valoriser l'un et de dévaloriser l'autre.
Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir peut-être comme conclusion ? Est-ce que c'est Dieu dans l'histoire des couples ? Est-ce que c'est la patience ? Qu'est-ce que vous retiendriez de ce texte ? Est-ce que c'est Dieu aussi qui reste toujours avec nous, quelles que soient les circonstances ?
Qu'il est qui droit avec les lignes courbes de l'être humain. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est de la fin du texte où on voit comment il y a un trio qui se crée. C'est le trio Abraham, Agar, Ismaël, et Sarai n'est plus là. Elle s'est exclue d'une certaine manière de la vie qui continue. Il faudra que Dieu la ramène en répondant cette fois-ci à son interpellation. Mais ça, ce sera le chapitre 17. C'est une autre histoire.
André Wénin, on pourrait passer encore des heures avec vous. On se retrouvera pour une prochaine émission. Mais d'ici là, merci beaucoup. J'invite les lecteurs à ouvrir la Bible dans ce chapitre que vous avez sûrement trouvé passionnant. C'est le chapitre 16 de l'Ancien Testament. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes théologien, professeur émérite de l'Ancien Testament et de langue biblique à l'Université de Louvain en Belgique. Pour ceux qui voudraient vous lire, Abraham ou l'apprentissage du dépouillement, c'est un des livres que vous avez écrit. Merci beaucoup.
Merci à vous.